Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute notre équipe habituelle, Perrine Suquet, Margot Agnès, aujourd'hui c'est Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime. Une émission spéciale, on en parlait tout à l'heure très rapidement avec Christelle Rebière et Vincent Parisot pour dire que c'est à l'occasion de la publication hier d'un livre document dont on va beaucoup parler parce que c'est un livre absolument admirable, écrit par un Américain qui a passé 18 ans de sa vie, presque 19 ans en prison, pour partie dans les couloirs de la mort, après avoir été condamné donc à mort en 1994 en compagnie de deux autres personnes qui, elles, avaient été condamnées à la perpétuité. Ce livre qui paraît aux éditions Ring s'intitule « La vie après la mort ». Il faut comprendre la vie après le couloir de la mort. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Damien Eccles. Bonjour et merci d'avoir pris quelques heures de votre séjour à Paris pour venir dans cette émission. Dans un instant, nous parlerons de votre livre et nous parlerons de ce qu'a représenté pendant presque 20 ans pour vous l'écriture, parce que ce livre réunit pour la plupart des textes que vous avez écrits pendant ces 20 années. Mais d'abord, je voudrais, avec Stéphane Bourgoin, qui est également mon invité, bonjour Stéphane.
Bonjour Jacques.
Qu'on dise à ceux qui nous écoutent, comment la vie de Damien Eccles a basculé ce jour de mai 1993 dans une petite ville, enfin une ville d'une vingtaine de milliers d'habitants, quoi, qui se trouve en Arkansas, qui s'appelle West Memphis. Disparition ce jour-là, le 5 mai, de trois enfants de 8 ans. Évidemment, la police va enquêter. Et puis le drame, on va découvrir ces enfants morts dans les environs le lendemain.
Le lendemain de leur disparition. Le 6 mai 93, oui. On découvre les trois corps. Certains sont immergés. Les vêtements sont enroulés à l'envers sur des pieux, des chaussures sont retrouvées, ils sont nus et ils sont ligotés un peu comme on ligote du gibier, c'est-à-dire chaque poignet est attaché à la cheville dans le dos. Ouais. Pour les trois enfants, et l'un des trois, le petit Christopher Byers, en plus, est mutilé sexuellement.
Ouais. Alors, évidemment, c'est un drame absolu pour les parents. Il y a une pression énorme de la population. Et il faut dire, et ça c'est très important dans ce qui va se passer ensuite pour Damien notamment, et Jesse et Jason, les deux autres ados qui vont se trouver broyés par cette affaire. On est dans une région des États-Unis qu'on appelle la Bible Belt, la ceinture de la Bible. On est très croyants. Et il y a une sorte d'hystérie autour des rites satanistes. Expliquez-moi ça.
Oui, nous sommes donc au début des années 1990 et depuis déjà quelque temps, des forces de l'ordre un peu partout, surtout dans les États du Sud, reçoivent des formations par des évangélistes qui leur parlent de recrudescence, de rites, de meurtres satanistes. Il y en a, mais c'est excessivement rare. Et pour eux, c'est un moyen aussi de gagner de l'argent avec ces formations et de recruter en quelque sorte des policiers. Mmh. Et notamment dans l'Arkansas, et dans l'Arkansas, il y a eu un certain nombre de ces policiers, dont certains qui ont mené l'enquête sur les meurtres de ces trois enfants, qui ont suivi cette formation. Donc déjà, il y a chez eux ce sentiment que peut-être ce crime est un crime rituel ou un crime sataniste.
Voilà. Alors ça, c'est évidemment, ça va être relayé par la presse, par la radio, par la télévision, par les journaux. Il y a une énorme pression et il y a une énorme psychose. Et très rapidement, donc les policiers qui doivent avoir du résultat et ils vont très rapidement exhiber, il n'y a pas d'autre mot, devant les caméras de télévision, un ado de 17 ans qui s'appelle Jesse.
Oui, ils vont cibler des ados qui sont un peu en marge, qui sont déscolarisés, parce que dans West Memphis, il y a des quartiers extrêmement pauvres et qui ne sont pas uniquement des quartiers afro-américains. Hein. Oui. C'est ce qu'on appelle aussi les pauvres blancs du Sud, hein, dont fait partie la famille de Damien Nichols. Hein.
Un peu marginal,
oui,
les enfants
aussi. Il a un
aussi.
Look gothique, il s'habille en noir, il écoute de la musique death metal, hard rock, il a arrêté l'école, il a fait des petits larcins. Ouais. À un moment donné, il s'introduit par effraction dans une caravane. Mmh. Il est intéressé par le vampirisme, tout ce qui est un peu gothique. Ouais. Et donc, ça en fait
des coupables,
un suspect déjà idéal avant même que toutes des preuves soient découvertes.
Ouais. Alors là, il faut passer le relais à Damien. On parlera après de l'écriture qui lui a vraiment sauvé la vie pendant ses années de prison. Mais d'abord, Damien, lorsque votre ami, votre copain Jesse vous dénonce, dit j'ai assisté à cette boucherie et j'étais pas tout seul et il y avait donc Jason et il y avait vous. Comment vous apprenez ça?
At the time that they arrested us,
eh bien,
Jason
le moment où nous ont arrêté, Jesse et moi, on était chez moi, dans mon living, en train de regarder la télé. Et Jesse, c'était vraiment le seul ami que j'avais dans cette partie du patelin. Parce que, voilà, on était un peu marginaux. Et donc, on nous a emmenés à la prison. Ils m'ont mis dans une cellule qui était à peu près de la taille d'une cabine téléphonique. Et ils ne pouvaient même pas avoir un verre d'eau ou aller aux toilettes. Et ils m'ont gardé là-bas toute la nuit. Et je devais être là-bas. Je devais être debout. Et ils venaient tout le temps. Et ils venaient me poser la même question. Êtes-vous prêt à vous confesser, à avouer? Et ils m'ont dit que quelqu'un d'autre, un de mes amis, avait déjà avoué et m'avait condamné moi, et que si je voulais moi me sauver, je devais absolument tout avouer et dire que c'était lui qui l'avait fait. Au début, je pouvais même pas savoir de qui il parlait. Jason, c'était mon seul ami. Et donc ça, c'était toute la nuit jusqu'au lendemain, et ils m'ont amené devant un juge pour m'inculper. Et là, le juge dit que ah ben voilà, je suis inculpé de 3 meurtres et je suis accusé d'avoir assassiné 3 enfants comme partie d'un rite satanique et que les autres avaient déjà avoué et m'avaient impliqué dans l'histoire. Et en fait, le juge a refusé de lire cette confession et ils m'ont donné une transcription de la confession. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte pourquoi ils ne voulaient pas lire ça devant le tribunal, parce que ça n'avait aucun sens ce qu'ils disaient. Ce que la police avait fait, c'était de prendre un garçon qui était un petit peu handicapé mentalement. Et ils l'ont torturé jusqu'à ce qu'il confesse.
Voilà, il était débile léger. Hein, on l'avait pas dit. Effectivement, et ça c'est le début de ce cauchemar pour Damien Nichols, donc qui est notre invité. On va faire une première pause dans cette émission. Rappelez donc la parution de ce livre hier aux éditions Ring, Damien Nichols, La vie après la mort, que nous retrouvons donc dans un instant en compagnie de Stéphane Bourgoin.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Nous allons retrouver donc Damien Nichols, qui est notre invité exceptionnel, puisqu'il est venu à Paris des États-Unis pour parler à l'occasion de la diffusion évidemment de son livre. On est donc très heureux de l'avoir. Moi, j'ai lu ce livre. Il est fascinant parce que c'est pas un livre de vengeance, c'est pas un livre de récrimination, c'est un livre vérité, si j'ose dire, avec des passages terribles sur les conditions de la vie à la fois en prison aux États-Unis et dans le couloir de la mort. Je voudrais vous poser cette question tout de suite, Damien Nichols. L'écriture, puisque ce livre reprend de très nombreux textes que vous avez écrits pendant près de 20 ans en prison, l'écriture vous a sauvé la vie?
Absolutely. To me, reading and writing.
Oui, absolument. Pour moi, la lecture, l'écriture, c'était les deux côtés d'une même pièce. C'était toujours lié, et une très grande partie de la façon dont j'ai pu conserver mon esprit en prison, c'est en écrivant des histoires. C'est comme si il y avait un autre monde dans lequel je pouvais me réfugier pendant un certain temps. Donc quand je lisais, quand j'écrivais, je revoyais mes propres mémoires de mon enfance, des choses qui avaient un sens pour moi. Et pendant cette période de temps, je ne voyais pas la prison. C'est arrivé à un point où, pour moi, j'avais mes mémoires tout le temps dans les mains, j'écrivais tout le temps sans arrêt.
Oui, parce que vous dites dans le livre, on y reviendra plus tard, que quand on est dans ces conditions de détention, on ne peut plus se faire de souvenirs, ou on n'a pas envie de se faire de souvenirs de ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est une autre affaire. Je reviens à l'accusation, donc à ce que vous avez raconté tout à l'heure. Il se trouve que vous avez fini par avouer avoir participé à cette tuerie.
Exactly. Whenever I was released,
oui. Quand j'ai été libéré, ils sont venus m'offrir un deal. Et en fait, ça s'appelle une déclaration de culpabilité, mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça s'appelle un Alfred plea, un plaidoyer coupable.
Ouais. Plaider coupable, on dit.
Un plaider coupable.
Ouais.
Mais en fait, vous plaidez coupable, mais en fait, vous êtes innocent. Et vous le faites pour pouvoir être libéré.
Voilà. Et donc,
la raison pour laquelle on fait ça, c'est que l'État ne peut pas être responsable de ce qui s'est passé, de votre emprisonnement.
Bien sûr. Oui, Stéphane Bourgoin, à ce propos.
Pourquoi l'État de l'Arkansas ne voulait pas reconnaître ? Parce qu'ils auraient pu être poursuivis financièrement et les avocats auraient pu éventuellement les faire condamner pour 60 millions de dollars. Mais ils auraient fait traîner les procédures et eux avaient déjà passé plus de 18 ans dans prison. Et donc, ils ont préféré accepter cet accord de plaider coupable pour pouvoir sortir le plus rapidement possible, tout en renonçant au recours financier.
D'accord, mais là, on est à la fin de l'histoire.
À la fin de l'histoire,
18 ans
oui.
se sont écoulés. Mais je parlais du point de départ. C'est-à-dire que, Damien, vous êtes arrêté, on vous met dans cette cellule dont vous parliez, on vous lit ou on vous explique que vos copains ont avoué. Vous finissez par dire, moi aussi, vous cédez à quoi, là? C'est une pression psychologique
La seule chose que j'ai fait ça, c'est quand j'ai accepté l'accord à la toute fin. Depuis le début, moi, j'ai dit que j'avais rien à faire avec ces meurtres.
D'accord. Donc ça, c'est bien clair. Merci de le préciser. Donc vous n'avez jamais avoué. Vous l'avez fait parce que c'était le deal qu'on vous proposait. C'était la seule façon de sortir de prison et sur laquelle, d'accord, on reviendra. Mais vous, donc, dès le début, vous dites, mais non, je suis innocent, je ne connais pas ces enfants, je n'ai rien fait. Et pourtant, vous allez au tribunal. Alors, sur quelle preuve on vous condamne tous les trois ?
Il y a beaucoup des preuves qu'ils ont menées contre nous. C'était les vêtements que je portais, par exemple. Ben voilà, j'avais une garde-robe avec des vêtements tout noirs. Ils ont présenté des choses comme des disques de heavy metal, des affiches sur mes murs, des bouquins de Stephen King qu'ils ont pris de ma maison. Ils ont dit, voilà, ça c'est des choses qui prouvent non seulement que je suis un assassin, mais que je n'avais pas d'âme.
Alors que il n'y a pas de témoins, on n'a pas trouvé d'armes et il n'y avait pas d'empreintes. Enfin, l'ADN à l'époque, ça n'existait pas, je crois, Stéphane Bourgoin.
Non, en plus, l'enquête a été très mal menée puisque les policiers ont déplacé les corps.
Oui.
Les techniciens de scène de crime ne sont arrivés que 3 heures après. Il y a eu des autopsies qui ont dit que les enfants étaient violés, mais d'autres contradictoires qui disent que non.
Oui, alors notamment, d'ailleurs, j'ai lu ça, il y a un passage du livre qui est très explicite de ce côté-là. Il y avait des mutilations sexuelles dont vous avez parlé. Mais un certain nombre de spécialistes et d'experts ont dit, mais ces mutilations sexuelles, elles ont eu lieu post-mortem et les responsables, ce sont des animaux. Parce que entre le moment où les enfants ont été tués, le moment où on les a retrouvés, ils ont passé plus de 24 heures ou près de 24 heures, en tout cas, sur une colline ou près d'une rivière.
Oui.
Donc voilà. Vous avez pensé à l'époque, Damien, que ce procès était une mascarade et que vous alliez être innocenté?
Oui, parce que à l'Amérique, depuis le moment où on est né, On dit que vous êtes innocent jusqu'au moment où on vous prouve coupable. C'est ce qu'on voit au cinéma, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on lit dans les livres. Et on le croit quand on va au tribunal. Et quand on vous dit que, ah, ils doivent prouver que vous êtes coupable, donc on se dit que, mais non, c'est impossible qu'ils prouvent quelque chose que je n'ai pas fait.
Bien sûr.
Donc, une partie de moi, on s'attend à ce que tout se passe bien jusqu'au moment où on vous envoie à la peine de mort.
Ouais. Et vous avez été, pourquoi vous êtes condamné à la peine de mort et les deux autres à la peine de perpétuité?
Il y avait deux raisons. Tout d'abord, c'était mon âge. Moi, j'avais un an de plus que les autres.
Vous avez 18 ans, vous aviez.
Il y en a un qui avait 16 ans, l'autre 17 ans, et moi j'avais 18 ans. Et aussi parce que les médias avaient mis l'accent sur moi. En raison de la façon dont je m'habillais, ils ont dit ah ouais, c'est lui qui fait le plus peur d'entre eux. Donc ça c'est le j'étais choisi comme étant le leader moi.
Ouais. Stéphane Bourgoin, c'est totalement hallucinant.
Mais hélas, je dis.
Vous avez déjà entendu des histoires comparables, vous qui avez rencontré.
Cette histoire, elle est totalement incroyable du début jusqu'à la fin.
C'est la plus énorme erreur judiciaire.
C'est la plus grande erreur judiciaire de tous les temps de l'histoire judiciaire américaine, qui ne tient que par les aveux de quelqu'un qui avait un quotient intellectuel qui oscille entre 65 et 72, qui était débile mental, hein, Jesse. Donc, il le dénonce et dans ses déclarations, mais en plus, ses déclarations sur la façon dont les meurtres ont été commis
ne correspondent pas aux constatations. Et malgré tout, il y a le...
C'est une justice aussi aux États-Unis. Hein, les Afro-Américains en sont souvent les victimes, mais c'est une justice. Si vous avez un très bon avocat, ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. Damien Nichols venait d'une famille très pauvre, donc il n'a pas eu non plus, dès le départ, la possibilité d'avoir un avocat pour le défendre comme il fallait.
Alors on va faire une nouvelle pause dans l'émission. La vie après la mort, c'est la vie après le couloir de la mort. On va parler de ces années d'incarcération, de détention, de doute, de bataille aussi, de combat. Parce qu'il faut dire que si Damien Nichols est sorti en 2011 de prison, c'est parce que... il a fallu trouver de l'argent pour faire des expertises, notamment une expertise ADN qui s'est révélée déterminante. Il a fallu qu'on en parle dans les médias. Il a fallu beaucoup de choses. Il a fallu peut-être aussi une certaine Laurie, dont nous allons parler ensemble dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous reprenons notre émission spéciale avec Damien Nichols, invité fil rouge de l'heure du crime aujourd'hui en compagnie de Stéphane Bourgoin à l'occasion de la publication aux éditions Ring de ce livre-document dont on parle beaucoup évidemment aux États-Unis, c'est un best-seller, mais dont on va beaucoup parler en France dans les jours et les semaines qui viennent, La vie après la mort. Je voudrais également simplement, en m'adressant à ceux qui écoutent cette émission, dire que vous pouvez par le 3210 ou par rtl.fr nous poser vos questions, nous faire part de vos réactions.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'un des aspects les plus forts de ce livre, Damien Nichols, ce sont évidemment vos années de prison, ce qui se passe dans votre tête, comment vous tenez le coup, comment vous réussissez à faire savoir à l'extérieur que vous êtes certainement victime d'une terrible erreur judiciaire. Quand on arrive à 18 ans dans une prison américaine, qu'on a fait la une de la radio, de la télé, des journaux, dans une affaire de meurtre horrible, comment on est accueilli?
As soon as I got to the prison, the day I arrived, dès que je suis arrivé à la prison, le jour de mon arrivée, les gardiens m'ont emmené dans un coin de la prison qui s'appelle le trou. C'est une partie de la prison qui est totalement isolée du reste de la prison. Très sombre, dégueulasse, des tas de rats. Et pendant 18 jours, ils m'ont battu. Ils venaient à minuit ou à 1h du matin. Ils m'ont enchaîné au barreau de la cellule et À tour de rôle, il me battait. Et ça a continué pendant 18 jours. Et à un moment, ils m'ont tellement battu que j'ai commencé à pisser du sang. Et la seule raison pour laquelle ils ne m'ont pas tué, c'est que d'autres prisonniers ont commencé à se rendre compte de ce qui se passait. Et puis, ils sont allés voir le prêtre de l'église, de la prison. Et le prêtre est allé voir les gardiens, il a dit, je sais ce que vous faites, vous êtes en train de tuer ce type. Et si vous arrêtez pas, je vais raconter tout. Et c'est la raison pour laquelle ils ne m'ont pas battu à mort.
Et... je vous écoutais à l'instant, vous dites ailleurs dans le livre, mais finalement, je suis content d'avoir souffert. Et vous dites là, j'ai souffert dans ma tête, bien sûr, mais aussi dans mon corps. Et cette souffrance, elle a un sens pour vous, pendant ces années de détention.
Autant qu'on veut l'éviter, autant que c'est déplaisant, la seule chose qui nous fasse grandir en tant qu'individu, c'est les peines que l'on souffre dans notre corps, dans notre vie. Ça nous fait comprendre mieux les choses. Mais en même temps, il y a d'autres avantages qui viennent de ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai rencontré ma femme. Nous sommes ensemble depuis 18 ans maintenant. Et puis, on a développé des relations avec d'autres personnes qui sont devenues très très proches de moi, aussi proches que ma famille, des gens que je n'aurais jamais rencontrés si je n'étais pas passé par cette horreur.
Et vous dites dans ce passage sur la souffrance, en fait, s'il n'y a pas la souffrance, j'aurais laissé s'écouler les heures, les jours, les semaines, les mois, les années. En fait, j'aurais sombré. Comment est-ce que ce mouvement d'opinion, de solidarité est né autour de vous? De gens qui ont commencé dans les médias à attirer l'attention sur votre cas.
The very first thing that happened, the way it all started, was with.
Eh bien, tout ça, ça a commencé par un documentaire qui a été fait par une équipe de films pour le réseau HBO. Ils ont demandé l'autorisation du juge de mettre des caméras dans le tribunal et de filmer toutes les sessions du tribunal depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui a sauvé ma vie. Et ça a permis à des gens de l'extérieur de voir ce qui s'est passé dans la cour du tribunal. Et les gens ont toujours dit qu'il n'y avait rien d'ordinaire, rien d'extraordinaire plutôt, dans mon affaire. Ça se produit sans arrêt aux États-Unis. Mais nous, on a eu la chance d'avoir ces caméras dans le tribunal et de filmer ce qui s'est passé pour de bon.
Oui, vous qui connaissez bien, Stéphane Bourgoin, la réalité des médias américains, ça peut sauver des vies, quoi.
Ça a probablement sauvé sa vie et c'est ce qui a permis aussi de générer l'intérêt de personnalités médiatiques comme Johnny Depp ou le réalisateur Peter Jackson. Il y a eu 3 documentaires par la chaîne HBO, Paradise Lost, puis après encore un documentaire qui est produit par Johnny Depp et par Peter Jackson, qui est plus récent, qui date d'il y a 2 ans. Et c'est évidemment cette poussée médiatique qui permet de rouvrir le dossier.
Mais est-ce que c'est ça aussi qui vous a permis de trouver l'argent, d'abord pour survivre en prison, parce que vous dites dans votre livre, tout s'achète et tout se paye dans une prison. Or, vous êtes d'une famille défavorisée, vous avez rien, et vous allez avoir un peu d'argent. Mais en même temps, il faut beaucoup d'argent pour payer des experts, pour construire un dossier qui existera devant la juridiction, qui pourrait décider de vous offrir un autre procès.
Exactement. Vous savez, on avait tout ce qu'il fallait. C'est nous qui avons payé pour tout. Pour les tests ADN, toutes les enquêtes, c'est nous qui avons payé. L'État n'a payé pour rien du tout, n'a rien payé. Les gens pensent que simplement parce que vous avez des nouvelles preuves dans une affaire ou vous avez des nouveaux témoins, les gens pensent qu'automatiquement, on va sortir, c'est fini l'affaire. Ben non, en réalité, ce n'est que 50% du dossier. L'autre partie de l'affaire, c'est que le public, l'opinion publique se rende compte de ce qui se passe. Il faut que des gens s'occupent de vous. Sinon, ils vous tueront simplement et puis ils vont cacher ça sous le tapis au lieu de reconnaître qu'ils ont fait une erreur.
Alors il y a cette femme, Laurie, votre femme, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure. J'aimerais que vous me parliez de ce qu'elle a représenté, parce que vous dites en fait, si elle n'avait pas été là, enfin c'est comme ça que j'ai compris ce que vous avez écrit, bah, j'aurais certainement coulé. Elle, au départ, elle prend contact avec vous en vous envoyant une lettre.
She saw the very first documentary.
Elle, elle a vu le premier documentaire qui a été fait sur cette affaire dans un musée à New York. Elle a commencé à m'écrire et j'ai su dès la première lettre que j'ai reçue d'elle que c'était quelqu'un totalement différent de tous ceux que j'ai connus précédemment. Elle, véritablement, elle a voulu que je voie le monde à travers ses yeux. Il y avait des moments en prison et je me suis dit, j'en peux plus. Je peux plus me lever et passer encore une journée ici. Et c'est à ce moment-là, c'est elle qui me portait sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, jusqu'au moment où je pouvais à nouveau me relever et marcher seul. Il y avait des moments où j'avais plus du tout d'argent, je pouvais plus du tout me payer d'avocat. Et elle, elle a pris des emprunts personnels pour payer ça. Et une des raisons pour lesquelles je suis là maintenant avec vous en train de vous parler, une des raisons pour laquelle je suis pas mort, c'est à cause de ce qu'elle a fait elle dans cette affaire.
Il y a une chose que j'aimerais que vous racontiez parce que ça m'a beaucoup ému en lisant votre livre. Vous avez imaginé avec Laurie, je ne sais pas qui en a eu l'idée le premier, un rituel pour vous permettre de tenir le coup. Et ce rituel, ça tourne autour de la fabrication régulière de ce que vous appelez l'eau de lune.
Moonwater was,
eh bien, l'eau de lune, je me souviens plus très bien qui a eu le premier cette idée, mais c'était après avoir lu une histoire sur la façon dont la lune a un effet sur l'eau sur Terre. Et si vous prenez un verre d'eau, par exemple, et que vous le laissez dehors sous la lune, eh bien, il y aura comme une mini-marée. Donc, la lune influence même l'eau qu'il y a dans un verre d'eau. Alors, ce qu'on faisait, c'est que on mettait un verre d'eau sur le rebord de la fenêtre les nuits de la pleine lune, et la pleine lune se reflétait dans l'eau, et on mettait de côté cette eau, et puis après, on prenait une petite gorgée le soir en même temps, et donc on savait tous les deux, en même moment, qu'on était liés, qu'on était ensemble. On faisait la même chose au même moment de la nuit. On a fait des choses comme ça pour remplacer le fait que les gens, par exemple, ont facilement, on pouvait pas dormir dans le même lit, on pouvait pas aller au cinéma ensemble, on pouvait pas dîner ensemble. Donc, au moins, il fallait trouver des choses de ce genre-là pour nous relier l'un à l'autre.
On va faire une pause dans cette émission et retrouver Damien Eichholz et Stéphane Bourgoin dans un tout petit instant.
L'heure du crime sur RTL.
On va revenir dans un instant avec Damien Eichholz, invité exceptionnel de cette heure du crime à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Ring. On le retrouve dans un instant sur les conditions de détention, sur notamment une année particulière. Il dit dans son livre la 12e année de détention a été une année terrible. Mais auparavant, Stéphane Bourgoin, il faut en parallèle continuer à dire que pendant qu'il est dans son couloir de la mort, pendant que ces deux autres adolescents qui ont été condamnés à la perpétuité. Alors ça, c'est aussi une spécificité américaine. Plus deux fois 20 ans. On peut condamner quelqu'un à perpétuité plus 20 ans. Bon, c'était le cas. Alors, de l'autre côté du miroir, si j'ose dire, il y a Laurie, il y a des gens comme Johnny Depp, vous en avez parlé, ou d'autres, des cinéastes. Il y a aussi des centaines de milliers d'Américains anonymes qui envoient de l'argent. Bon, comment se fait le retournement de situation, c'est-à-dire notamment qui va aboutir en 2007 à une analyse ADN qui ne pouvait pas être faite, qui n'avait pas été faite en tout cas en 93,
qui n'a pas été faite ni dans les années qui ont suivi, hein,
oui,
parce que par exemple, le procureur, le juge, au contraire, bénéficiait de toute cette aura médiatique de la condamnation de ces trois innocents, faut bien le dire, innocents, pour avancer leur carrière politique. Ouais. Donc, ils ne voulaient pas revenir sur des erreurs. Et lorsque ce comité de soutien qui organise des concerts par l'entremise de Johnny Depp à West Memphis, etc., vont obtenir des fonds pour ouvrir l'enquête avec des enquêteurs privés.
Des avocats, des enquêteurs privés.
Ça coûte une fortune. Et on va se rendre compte que, par exemple, une des victimes, le petit Stevie, avait des marques sur le front qui étaient des marques de morsures de dents. L'ADN, rien n'avait été fait. Donc, il réexamine notamment les liens qui ligotaient les trois enfants, leurs poignets à leurs chevilles dans le dos. Rien n'avait été fait à ce sujet non plus. Et on se rend compte, donc en juillet 2007, quand les résultats de l'ADN arrivent, qu'on n'a aucun ADN, ni de Damien Nichols, ni de Jason, ni de Jesse. Donc, ils ne sont pas présents sur la scène de crime.
Mais alors, là je viens à vous, Damien Nichols, dans votre livre, vous dites, c'est pas nous, mais tout le monde sait maintenant... après toutes ces années, qui a été le meurtrier de ces trois enfants?
We can't say with 100% certainty.
On ne peut pas le dire avec 100% de certitude, mais on a des soupçons très très forts. Lorsque les résultats de l'ADN sont arrivés, non seulement c'était pas le mien, ni ceux des deux autres garçons en prison, mais c'était celui d'un des beaux-pères d'une des victimes, et celui qui avait fourni un alibi à la belle-mère. Et donc il y a d'autres témoins qui ont dit que il l'avait vu, lui, avec les trois victimes à quelques instants avant qu'il soit tué. Mais aux États-Unis, seul un juge peut dire qui est coupable et qui est innocent.
Voilà. Et donc, malgré ce faisceau, en tout cas d'indices, hein, qui sont pas, peut-être pas des preuves absolues, mais personne ne s'intéresse à résoudre finalement l'énigme du meurtre de ces trois enfants.
Absolutely.
Effectivement, oui. En ce qui concerne l'État, eux, ils en ont fini. Ils veulent que cette affaire soit fermée, terminée, parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont fait une erreur. Aux États-Unis, tout le système judiciaire est basé sur la politique et l'argent. Les juges, les procureurs, les avocats généraux sont élus à leur position. Et s'ils doivent admettre qu'ils ont envoyé quelqu'un à la peine de mort, eh bien, ils ne gagneront pas les élections suivantes.
Sans commentaire. Vous vouliez ajouter quelque chose, Stéphane Bourgeois?
Oui, le beau-père, nommons-le, il s'appelle Terry Hobbs, avait un casier judiciaire extrêmement fourni. Lors d'un précédent mariage, il avait abusé de son fils, il a abusé de la sœur d'une des victimes, la petite Amanda. Oui. Il était connu pour des maltraitances, des problèmes de drogue extrêmement forts. Il a menti constamment sur l'endroit où il se trouvait au moment où les enfants ont disparu. Cinq ou six fois, il fait des témoignages contradictoires. Oui. Donc, il ferait un suspect beaucoup plus idéal que ne l'était à l'époque Damien Nichols.
Dernière question.
Et son ADN, on le retrouve sur les lacets qui ont servi
à ligoter
les enfants.
Voilà. Dernière question sur ce point, Damien Nichols. Mais les familles des deux autres enfants ne font pas pression de leur côté, ne veulent pas savoir ce qui s'est réellement passé, ou vous considèrent encore coupable?
Non, ils veulent savoir, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que l'affaire soit rouverte, que le dossier soit rouvert. Mais quand on a fait le documentaire là-dessus, ils sont venus avec nous, ces familles, et on a fait des sessions de questions-réponses avec le public, une fois que le film a été montré. Et en fait, le père d'une des victimes, la dernière fois qu'on était ensemble, m'a donné un cadeau. Il m'a donné une petite montre, et il m'a dit, voilà, et ça, maintenant, le temps, maintenant, pour toi, commence maintenant. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour faire en sorte que cette affaire soit rouverte, et qu'il y ait finalement, que justice soit rendue.
Alors on va faire une dernière pause dans l'émission. On se retrouve tous tout de suite après pour parler de cette année, parce que bon, j'envoie évidemment tout le monde à Sif, qui est vraiment admirable, parce que c'est un livre document, mais c'est beaucoup plus qu'un livre document. C'est un livre, c'est-à-dire il y a une écriture, il y a un écrivain derrière les textes qu'on lit dans ce livre. Damien Eacles parle de cette 12e année de détention qui a failli pour lui être une année définitivement noire. Et puis on parlera évidemment du jour de la libération. Et puis ensuite, il en parle également dans son livre, à comment on apprend à revivre, ou comment on apprend tout simplement à vivre, selon le titre du livre, Après la mort.
L'heure du crime sur RTL.
Alors, je reviens sur cette histoire avec vous, Damien Eacles, parce que on est ici, on parle en France de situation ubuesque. Redisons bien dans quelles circonstances vous avez été libéré de prison. On vous propose un deal qui évite un procès public. Le deal, c'est que les trois personnes qui ont été condamnées, donc vous et vos deux copains de l'époque, vous acceptez de dire que vous êtes innocent, mais que le tribunal avait eu des preuves suffisantes pour vous condamner. C'est ça, vraiment, parce qu'on croit rêver quand on dit une chose pareille.
Finalement, c'est que après toutes les preves qu'on a eues, l'ADN, les témoins, ceux qui ont avoué qu'ils ont eu des pressions pour dire n'importe quoi, le procureur a eu une rencontre avec mes avocats. Ce qu'il a dit, si on retourne au tribunal, vous allez remporter l'affaire, bien entendu, mais on peut le faire durer pendant très longtemps.
Ah, d'accord.
Et chaque fois qu'une date va être fixée, on peut demander un report de date.
Et pendant tout ce temps-là, il reste en prison, évidemment.
Oui, évidemment. On peut faire durer ça pendant encore une dizaine d'années. Ou alors, vous signez cet accord et vous rentrez à la maison avant la fin de la semaine. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment très, très malade. Ça faisait très longtemps que j'étais en prison. Je perdais la vue. Et je savais que si je n'acceptais pas cet accord, je verrais jamais l'extérieur de la prison.
C'est pour ça que vous portez encore aujourd'hui des lunettes de soleil ?
Exactly, I didn't see sunlight for. Ouais, j'avais pas vu la lumière du jour pendant 10 ans. Et puis j'étais conservé dans un espace extrêmement restreint, très très longtemps. Mes yeux ont perdu la possibilité d'accommoder les choses de loin.
Puisque vous dites dans votre livre que même les périodes de promenade, qui en général donnent l'occasion à un détenu d'aller respirer un peu d'air frais dans une cour et de voir éventuellement un arbre ou une feuille, ou enfin de voir la vie de l'autre côté du mur, vous, c'était une autre pièce finalement grillagée, et c'était le grillage qui vous faisait communiquer avec l'extérieur. C'était ça votre promenade.
C'était le seul contact humain que j'ai eu quand j'étais en prison. C'était rencontrer ma femme une fois par semaine pendant 3 heures. Et pendant les 10 dernières années de ma vie en prison, j'étais à l'isolation. La seule fois où je pouvais parler à quelqu'un, c'était en criant à travers une porte en fer.
Oui. Pourquoi la 12e année a été particulièrement difficile pour vous?
I think it was just because so much time. Parce que tellement de temps avait passé que moi, j'en pouvais plus. J'étais épuisé. Je sentais que j'arrivais vraiment à la fin de mes capacités, que je pouvais plus supporter ça. C'est le moment où Laurie a réussi à me faire remonter. Et c'était l'année lorsque le test ADN a finalement été publié. Et même quand on a vu le test ADN, le juge a dit, aucune importance. Vous êtes condamné à mort, vous allez mourir. Donc c'est là quand j'ai commencé à perdre l'espoir, que c'est devenu tellement difficile.
Alors, sans transition, on revient à ce jour d'août 2011. Nous, on dit août 2011, il est libéré après 19 ans de prison. Vous avez évidemment la date exacte en tête, et même peut-être l'heure à laquelle vous avez quitté les murs de la prison.
I'm not sure of the exact time, just because they
sûr de l'heure, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je ne le sache pas.
Jusqu'au bout, donc.
Je ne savais pas que j'allais être libéré jusqu'à la nuit avant ma libération. Ils m'ont mis dans une cellule, tout seul. Donc je pouvais raconter ça à personne, évidemment.
Vous arrivez à vivre aujourd'hui sans haine?
I can live without hatred.
Je peux vivre sans haine. Parce que si je devais être là et réfléchir et penser à ces choses que ces gens ont fait, m'ont fait, ben je sentirais que de la haine. Mais au lieu de ça, j'ai résolu de me concentrer sur ce que j'aime, ce qui fait que ça vaut la peine d'être vécu. La crainte, la peur, ça c'est autre chose. J'ai beaucoup de peur dans ma vie encore. J'essaie de surmonter ça. Vous savez, ça fait 2 ans et demi que je suis sorti et je lutte encore avec cette peur tous les jours de ma vie.
Alors justement, quand le lendemain de ce jour que vous aviez tellement attendu, ben vous êtes libre, vous pouvez prendre le métro, un taxi, entrer dans un restaurant, aller écouter de la musique, voilà, prendre le temps que vous voulez pour vous détendre avec vos amis, avec votre ami Laurie. Ça a été aussi un apprentissage pour vous?
Absolutely. Just because when you get out of prison,
absolument, parce que lorsqu'on sort de prison, les gens pensent que vous allez être content, enthousiasmé, mais ils comprennent pas l'anxiété, le stress qu'on ressent. Moi, j'avais vécu à l'intérieur d'une boîte pour quasiment 20 ans. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire dans le monde extérieur. Moi, j'étais à l'isolement pendant une décennie. Donc, les réactions humaines, c'était extraordinaire. Moi, j'étais véritablement dans une situation de choc et de traumatisme pendant plusieurs mois après ma libération. J'avais besoin de quelqu'un avec moi sans cesse.
Quelle est la chose qui vous a le plus manqué pendant vos années de détention? Je vous pose la question exprès maintenant à la fin de l'émission parce que vous dites tout le monde vous a posé cette question et à chaque fois ça vous pose des problèmes pour répondre.
You know, I could go into a lot of small things.
Savez, for example, je pourrais parler de beaucoup de petites choses. Je pouvais regarder les étoiles la nuit. Ou alors des choses comme ça. Je pouvais pas voir les étoiles. Mais je pouvais pas prendre un bain. Mais ce qui me manque le plus, c'est d'être traité comme un être humain.
Mmh. Parce qu'il y avait aussi pas un fruit en 18 ans. Vous n'avez pas mangé un fruit pendant 18 ans. Stéphane Bourgoin, il y a, ça n'est pas un détail, ça peut être un détail, pris comme un détail, ça n'est pas un détail. Il y a une histoire qui tourne autour d'un chat pendant ces années de détention.
Un petit chaton, oui, on ne sait pas, il ne sait pas comment ce petit chaton s'est introduit dans la prison. Et ça l'a beaucoup aidé de s'occuper de ce petit chaton. Et alors, tous les détenus se passaient ce petit chaton, comme ça en secret, pour s'en occuper, et ça leur servait d'avoir une présence humaine, une présence animale.
Voilà, et d'avoir aussi un comportement d'humain.
Et d'autres détenus s'occupaient même de rats qu'ils tentaient d'apprivoiser aussi, vous rendez compte?
Damien Hicols, dernière question, il vous arrive de, aujourd'hui encore de rêver la nuit à cet univers qui vous a occupé pendant aussi longtemps? Ou est-ce que vous rêvez de ce que vous faites en liberté?
A little bit of both.
Un petit peu des deux. Je ne rêve plus autant de la prison que lorsque je suis sorti, mais il y a eu un moment où, quand je suis sorti, je me réveillais en hurlant la nuit, à me débattre dans les couvertures, et ça faisait très peur à ma femme, et elle devait me réconforter au milieu de la nuit. Maintenant, je n'en rêve plus tellement, mais j'y rêve encore de temps en temps.
Bientôt, vous pourrez rêver de votre séjour à Paris. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait escale ici à RTL, au 22 rue Bayard, dans les studios de l'Heure du Crime. Merci beaucoup, Damien. Et je voudrais signaler que samedi, vous allez signer votre livre. C'est, attention, une seule séance de signature au cours de votre séjour à Paris. Ça va se passer samedi à 16h au BHV Hôtel de Ville, que tous les Parisiens connaissent, bien sûr. Et voilà, vous pourrez mettre un visage sur cette voie. Donc dès samedi. Merci beaucoup Stéphane Bourgoin.
Merci Jacques.
Et je voudrais remercier aussi Michel Zlotowski. Merci monsieur. On ne se connaissait pas, qui a assuré la traduction simultanée des propos de Damien Eccles. Et voilà, bonne lecture. Donc le livre s'intitule Damien Eccles, La vie après la mort, et c'est paru chez Ring. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques instants.